va prier pour ce temps où la parole va être annoncée, que nous puissions bien comprendre cette parole qui nous est adressée. Seigneur, nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as laissé ton esprit, mais aussi ta parole qui ne passera pas parce qu'elle est vérité. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole et aussi le sens de cette parole. Que nous ne soyons pas légalistes, mais que nous puissions comprendre l'esprit dans lequel tu l'as écrite pour nous et qu'elle puisse devenir esprit et vie en chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. On va relire un passage qu'on a lu dimanche dernier dans Éphésiens, à partir du verset 10. Ceux qui ont leur Bible peuvent suivre Éphésiens, verset 10. Il est question de Jésus. Bien sûr, Éphésiens, chapitre 3, c'est ça. 4, 10, pardon. Donc Jésus, il est question de l'unité de la foi. Hein. Jésus, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et au verset 10, il est dit, celui qui est descendu, donc Jésus qui est descendu, dans les régions inférieures de la terre, qui dans la mort, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cieux, mais de tous les cieux. Donc au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Oui, le but de la venue de Jésus, du Messie, qui était annoncé, c'est de venir, de descendre le plus bas possible, et de monter le plus haut possible pour remplir toute chose. Jésus est rempli toute chose. C'est pour ça que Jésus, c'est notre héros. Hein. C'est juste, c'est notre tout. Hein. Lorsque nous avons Jésus, nous avons tout pleinement. Parce que il est venu remplir toute chose. C'est lui, ensuite, verset 11, le verset qui enchaîne, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Il y a des saints ici dans l'église? C'est dommage, je ne vois pas d'auréole. On va ranger ça, Isabelle. On va vous mettre tous une auréole. Non, non, on n'a pas besoin d'auréole. On est tous des saints en Jésus-Christ. Pour le perfectionnement. Il y en a qui veulent perfectionner ici? Il y en a qui pensent que non, ça y est, vous êtes parfait. Julie, toi, tu es parfaite. Non. Non, on a tous besoin d'être perfectionnés par Jésus. Amen. Et si un jour vous arrêtez de croire ça, c'est fini. Vous êtes mort, quoi. Vous êtes vieux, quoi. Tu te sens jeune, Claire? Tu veux être perfectionné? C'est bien ça. On a tous besoin d'être perfectionnés. Dans un domaine, dans un autre. On n'est jamais parfait. Seul Jésus est parfait. Donc, nous avons besoin des ministères. Et Jésus a donné ces ministères pour le perfectionnement des saints, et cela en vue de l'œuvre du service. Il y a des serviteurs ici? Qui veut être serviteur? Eh bien, il faut être perfectionné pour être serviteur, en vue de l'œuvre du service. Le Seigneur nous appelle à servir. Nous ne sommes pas là pour être servis, mais pour servir. Bien sûr, quelqu'un va nous servir en retour, mais c'est le retour. Nous ne nous attendons pas le retour, nous nous servons. Et le Seigneur permet le retour, parce que nous nous servons les uns les autres. Amen. Et c'est comme ça que fonctionne l'Église. En vue de l'œuvre du service, et de quoi? Donc le service et de, le deuxième objectif, l'édification du corps. Vous êtes là en tant que corps? Et vous, nous ne sommes pas là uniquement en tant qu'individus, nous formons un corps. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, il y en a qui vivent dans la nature, comme on dit. Pourquoi? Parce que bon, ils ont été blessés par l'Église, mais qui n'a pas. Il y en a qui n'ont pas jamais été blessés par l'Église ici. Levez la main. Oui, c'est bien. Mais c'est rare, hein. Vous savez, dans une famille, est-ce que. Il y en a qui ont des frères et sœurs. Bien sûr, quand on a de frères et sœurs, c'est un peu différent. Est-ce que vous avez jamais été blessé par un frère ou une sœur? Jamais, Rémi. Ah bon, Rémi dit jamais, j'y crois pas. Alors il s'est repris. Mais oui. Et vous savez, quand on est blessé par un frère ou une sœur, ça fait plus mal que quelqu'un de l'extérieur. Hein? Quelqu'un de l'extérieur, vous le voyez plus, vous le verrez peut-être plus, jamais. Bon, vous oubliez. Mais un frère et une sœur, il faut le revoir, parce que il fait partie du même sang, tout ça. Et donc ça fait mal. Hein? Mais ça fait partie de la vie, parce que nous ne sommes pas parfaits. Hein? Et que on se blesse pas forcément volontairement. Bon. Mais il y a le pardon qui est là. Allah. Il y a des outils que Dieu nous a donnés, le pardon, l'amour, etc. Eh bien, dans l'Église, c'est pareil. On se blesse, on peut se blesser. Bien sûr, un des rôles du pasteur, c'est de faire attention qu'il y ait le moins de blessures, et que les blessures soient réparées, que les blessures soient pansées. Bon, pour que les brebis puissent repartir dans un nouveau champ et se s'édifier. Ceci étant, c'est la vie. Donc il faut l'accepter, mais en même temps y travailler. Et travailler, c'est l'édification du corps de Christ. Donc édifier le corps. Donc c'est ministère. Alors c'est quoi ces ministères? On les répète. C'est l'apôtre, prophète. Ne regardez pas vos Bibles. Hein. J'ai une docteur. Voilà. Alors vous avez la main pour vous en rappeler, hein? Avant de commencer par le pouce, l'apôtre. Hein. L'apôtre, c'est celui qui touche tous les autres doigts. Faites ça comme ça, hein, ça vous aidera. Voilà, l'apôtre, voilà. Donc c'est lui qui est fondateur d'église, fondateur. Donc il doit tout faire, il doit chanter, il doit prendre sa guitare ou sa voix, peu importe, pour animer les chants, la louange. Il doit mettre les chaises, enfin tout, parce qu'il y a personne. Bon, il y a peut-être une personne. On nous raconte l'histoire dans la Pentecôte. Il y a beaucoup d'histoires de la Pentecôte parce que c'était une église fondatrice. Et puis un jour, un pasteur, vous savez, c'est pas toujours facile d'être pasteur. Il fait une réunion d'évangélisation. Il y a personne. Il y a personne. Toutes les chaises sont vides. Réunion d'évangélisation. Personne. Et pourtant, le Seigneur lui a dit, il faut que tu prêches ce message. Il y avait un message à prêcher. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Il a prêché devant des chaises vides. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Cathy, tu connais cette histoire? Non? Une vieille histoire. C'est une vraie, hein, attention. Je raconte pas des légendes, moi. C'est une vraie histoire. Je sais pas à quel endroit de la Normandie ça s'est passé. Eh bien, il y avait quelqu'un qui était derrière le rideau. Qui était derrière le rideau. On ne sait pas comment il est arrivé là. Peut-être qu'il était enfermé dans l'église, je ne sais pas. Enfin, cette partie-là, je ne connais pas. Eh bien, quand il a fait l'appel, parce qu'il a tout fait, hein, dans les règles, il a fait un appel. Ah oui. Il a fait un appel. Ben, il est sorti. Il est venu devant. Il a donné son cœur à Dieu. Il est devenu chrétien. Alors, c'est la foi, ça. Hein? Donc, quand on est apôtre, il faut tout faire. Hein? Ok. Tac, 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 tac. Voilà, apôtre. Ça, c'est le prophète. Qu'est-ce qu'il fait, le prophète? Qu'est-ce qu'il fait? Il désigne, il montre, tu vois. Donc le prophète, lui, il doit montrer là où c'est fait mal, il doit montrer la direction, il doit montrer le chemin, l'avenir, etc. Enfin, il doit avoir cette capacité-là, et Dieu donne le ministère d'apôtre, de prophète. Celui-là, c'est quoi? Évangéliste. Pourquoi l'évangéliste? Celui qui va le plus loin, il dépasse tous les autres, vous voyez. Il va le plus loin. Il va chercher les âmes. Il a un don pour aller toucher les âmes et les faire venir. Vous connaissez tous des évangélistes, hein? Moi, il y a Alain Choiquet que j'aime le plus, donc évangéliste. Un homme extraordinaire qui touchait les Français, mais à un point incroyable. Moi, je l'ai connu quand on était à la Sorbonne, avec les étudiants. Et les foules entières se réunissaient quand ils prenaient la parole dans les amphis, etc. L'évangéliste, il va chercher les âmes pour les amener au Seigneur. Le quatrième, c'est quoi? Quel ministère? Pasteur, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a à la main? L'alliance. L'alliance. Hein? Le pasteur est celui qui est en alliance avec son Église. Hein? Qui doit avoir cet amour pour l'Église, comme Jésus développe avec son épouse, hein, pour comme le berger, hein, qui prend soin de sa bergerie, etc. Bon. Et le dernier, le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il se débouche les oreilles. Hein? Il débouche les oreilles. Hein? Bah, ceux qui ont fait les cours transformation, hein, c'est pas de moi, hein, c'est de Jean-Paul Englert. Peut-être lui, là, d'ailleurs. Ouais. Il débouche les oreilles. Hein? On a besoin de déboucher les oreilles pour comprendre la parole. Hein? On a besoin de connaître les vérités de la parole. Il y en a qui ont jamais d'oreilles bouchées. Hein, qu'est-ce que vous faites? Vous débouchez les oreilles. Alors bon, vous faites ça discrètement, mais il faut se déboucher les oreilles. Hein? Ou alors se débouche naturellement, mais il faut déboucher les oreilles. Bien, le docteur, il débouche les oreilles. Amen. Donc on a besoin, dans l'Église, pour l'édification du corps de Christ et pour l'œuvre du service, des... Allez-y. Encore une fois. Amen. Ça y est, c'est un petit moyen de mnémotechnique, hein. C'est pas marqué dans la Bible, ça, là. Mais ça permet de se rappeler plus facilement. Alors, j'ai commencé à parler un peu du ministère de docteur. C'est un ministère qui est moins connu, on ne sait pas trop où commence où s'arrête le ministère de docteur. Les autres, on les connaît un petit peu, à part apôtre. Et donc c'est important de comprendre quelle est cette fonction de docteur et comment aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il y a des docteurs? Il y en a qui connaissent des docteurs de l'Église? Oui? À l'Église catholique, on a nommé beaucoup des docteurs. Hein. Mais nous, est-ce que vous connaissez des docteurs? Des gens qui peuvent déboucher les oreilles, hein, qui peuvent expliquer la parole, qui peuvent... Pardon? Moi? Non. J'aime bien, mais... C'est vrai qu'on a besoin de docteurs qui nous fondent sur la parole. Parce que si nous ne sommes pas fondés sur la parole, qui est Christ, eh bien nous sommes fondés sur le sable. Et là, l'ennemi, il peut nous emporter par toutes sortes de doctrines étrangères. Alors, j'aimerais vous faire réfléchir un peu sur le contenu des Écritures. Hein. Donc, le docteur, il explique les Écritures. Alors, rappelez-vous que Jésus était le docteur. Jésus est le docteur. Hein. Jésus a tous les ministères, d'abord. Hein. Il a tous ses ministères. Mais il a particulièrement le ministère de docteur. Hein. Rappelez-vous, à 12 ans, qu'est-ce qu'il a fait à 12 ans, Jésus? Il a enseigné les principaux d'Israël. Hein. Il était déjà en formation d'être docteur. Donc, imaginez-vous, à 30 ans, hein, comment il connaissait sa parole. La parole de Dieu. Donc il était docteur. Et ce n'est qu'à 30 ans qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc voyez-vous, les églises charismatiques, pour moi, si elles veulent tenir dans le temps et former, édifier des églises telles que nous le voyons dans le Nouveau Testament, il faut d'abord être appuyé sur la parole. Et ensuite équipé de la puissance. Mais la puissance, elle doit être... Enfin, les résultats de la puissance qui sont des manifestations doivent être équilibrés par la parole, arbitrés par la parole. Et c'est Jules Dubois qui a écrit ça dans un livre de John Wimber, qu'il aimait bien, préface du livre Évangélisé, c'est que la parole doit toujours arbitrer entre les manifestations. Et ne pas prendre la manifestation pour argent comptant. La preuve, c'est que, regardez, l'Église catholique, elle prend les apparitions de Marie comme... argent comptant. Tout simplement parce que quand elle apparaît, elle dit « Suivez Jésus ». Est-ce que c'est le seul critère? Alors, hein, vous savez, Satan, il peut se déguiser en ange de lumière. Hein. Voilà, donc je ferme la parenthèse, mais pour dire qu'il faut être établi sur la parole. Donc, Jésus connaissait les Écritures. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous savez, au temps de Jésus, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament a été écrit quand? Il a été écrit quand, le Nouveau Testament? Plus? Ouais, à partir de 60, hein, jusqu'à 100 ans, puisque Jean, il est mort à 99 ans. Bon, 100 ans, quoi. Pour le plus tard. Donc, c'est dans le premier siècle que le Nouveau Testament, donc il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. Alors. On va faire un petit exercice, savoir si vous connaissez votre Bible. Dans la Bible, il y a des livres. Il y a combien de livres? Pardon? ça oscille un petit peu, 66. Bon, vous êtes pas loin, c'est bien. Et il y a des rubriques, enfin on peut les classer, bien sûr, si je vous demandais 66 livres, vous serez mal, moi aussi, je les connais pas tous, mais ça permet de les classer en rubriques, c'est-à-dire des thèmes qu'ils abordent. L'écriture aborde des thèmes. Alors qu'est-ce qu'elle aborde comme thème en premier? Pardon? La Torah? Ouais. Donc je mettrai la loi en termes très général, hein, pas la loi uniquement de Moïse, mais la loi de l'univers, la loi, là, dans la Genèse, il est parlé de loi, etc. Donc de loi, qui effectivement, au niveau juif, s'appelle la Torah, et qui est et aussi le Pentateuque, en grec, hein. Pentateuque. Pentateuque, ça veut dire quoi, Pentateuque? Pentagramme, pata. Cinq. Donc il y a cinq livres. Sur, je dirais, la loi. Et voyez-vous, juste un petit, une petite idée que je développerai plus tard. Les pharisiens connaissaient la loi. Les sadducéens connaissaient la loi. Les scribes connaissaient la loi. Jésus est venu, il était annoncé par la loi. Et quand il était, est venu, ils l'ont pas connu. Ils l'ont pas reconnu. Hein. Jésus, quand il annonçait quelque chose, quand il parlait de la loi, hein, très souvent, dans les synagogues, il parlait de la loi. Il a dit, il est écrit. Mais, moi je vous dis. Il est écrit, mais moi je vous dis. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Il est écrit, moi je vous dis. Ça veut dire qu'il dit autre chose? Qu'est-ce qu'il dit, alors? Il va plus loin, dans quel sens? Il donne le sens. Il donne du sens. Voyez-vous, l'idée de donner du sens. Il donne le sens. Il donne l'esprit. Et non la lettre. Les pharisiens avaient la lettre. Il est écrit. Voilà. Il est écrit. Mais le problème, c'est que s'il est écrit, dans une question de pratique, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il est écrit, moi, je vous donne le sens. Pourquoi Dieu a écrit ça? Pourquoi Dieu a écrit ça? Et ça, c'est important qu'un docteur puisse donner le sens de la loi. Deuxième type de rubrique que vous trouvez dans, alors, ça, c'est ce que je vous dis là, vous le trouvez dans les Bibles juives. Hein. Les juives ont classé ça comme ça, hein, c'est pas moi. Les prophètes. La loi, les prophètes. La loi et les prophètes. Voilà. Alors, des livres prophétiques, il y en a combien, Cathy? Alors, vous allez apprendre quelque chose de très facile, ce matin, que vous retiendrez. Combien? Ben, 5. Non, je plaisante un petit peu, mais pas beaucoup. Attendez, je vais y arriver. Il y en a 5 plus 12. 12, c'est les apôtres. Voilà. Il y a les grands et les petits prophètes. Enfin, pour les juifs, il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais les grands prophètes, c'est lesquels? Ésaïe? Alors, il y a, j'ai pas tout entendu. Ésaïe, Jérémie, les Lamentations de Jérémie, bien sûr. Ézéchiel et Daniel. Hein, et... Non, 5. Les Lamentations. C'est Jérémie, il y en a 2. Et les 12 petits prophètes, ben, c'est Osée, Malachim, etc. Ok. Troisième type de livre de l'Ancien Testament. Poétique. Voilà. Alors, effectivement, vous avez lu certainement. Voilà. Moi, je dirais, d'ailleurs, Vaux-sur-Seine aussi, les classes comme ça, les livres de sagesse. Alors, effectivement, il y a de la poésie, il y a tout. Les livres de sagesse. Voilà, Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Et dernière rubrique. Alors là, il y en a 5 aussi. Sur ça, je vous ai dit 5. C'est assez facile à se rappeler. Hein. Et le dernier thème, historique. Historique, c'est l'histoire d'hommes et de femmes. Voilà. Donc des livres historiques. Voilà, Esther, historique. Alors malheureusement, là, ça marche plus. Il n'y en a plus 5. Il y en a 12. Ben voilà, 12 comme les apôtres. Donc vous retrouvez les 12. Livre historique, donc Josué, Juge, Ruth, etc. Esdras, Néhémie. Si on en arrive au Nouveau Testament. Alors bon, là je vais être très simple, je suis pas très orthodoxe dans ma, mais en gros, vous avez les évangiles, d'accord? Les évangiles et les épîtres. Bon, épîtres, après il faut rentrer dans le détail parce qu'il y a l'Apocalypse, tout ça, le livre apocalyptique. Enfin en gros, il y a la vie de Jésus. Les évangiles, c'est la vie de Jésus. Hein, ou encore, si vous voulez, on peut dire l'évangile du royaume de Dieu, hein, puisque Jésus a utilisé le mot royaume de Dieu plus de 100 fois. Hein. Jésus n'a pas prêché un évangile à lui, il a prêché l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Hein. C'est ce que nous sommes censés faire en tant qu'Église, prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Et les épîtres, qui sont essentiellement de la défense de la foi. Ça s'appelle l'apologétique en théologie. Défendre la foi. Avec les évangiles, on n'a besoin de rien d'autre. Si on avait les évangiles, on enlève toutes les épîtres, on n'aurait pas besoin théoriquement, on sait tout. Puisqu'on a les Écritures, l'Ancien Testament, qui annonce le Messie. Le Messie, il arrive, il le vit, il incarne, il accomplit la parole. Les Épîtres, on n'en aurait normalement pas besoin. Les Épîtres, Dieu permet qu'ils soient écrits par les apôtres, tout simplement parce que ça s'adresse à notre intelligence. Voyez-vous ? Il y en a qui disent, en tant que chrétien, pas besoin de l'intelligence. Si. S'adresse à notre intelligence, ce qui doit suivre, hein, puisqu'on a un libre arbitre de refuser ou d'accepter le royaume de Dieu. Et aussi, on a le droit aussi de le comprendre. Donc les épîtres nous permettent de comprendre. Et très souvent, les épîtres, en particulier l'épître aux Romains, c'est ce qui a permis à Luther de saisir la différence entre l'erreur qu'il a vécu dans le catholicisme, puisqu'il était moine, et de découvrir la parole, c'est grâce à l'épître aux Romains qu'il a pu saisir cet écart entre la vérité et l'erreur. Donc on a besoin de ces épîtres. Et parce que vous savez ce qui se passe, les écritures qui sont écrites par qui? Par Dieu ou par les hommes? Bah, attendez, c'est les hommes qui l'ont écrit. Pardon? Oula, on parlait tous en même temps là. quels sont ceux qui disent qu'ils ont été écrits par Dieu? Levez la main. Et ceux qui disent qu'ils ont été écrits par les hommes? Alors qu'est-ce qu'on fait? Sagesse de Salomon, on tranche? Collaboration? Alors attendez, on va recommencer. Quels sont ceux qui croient que Dieu a écrit les Écritures, levez la main. Il y a quelques protestants dans la salle. Quels sont ceux qui croient que c'est les hommes qui ont écrit? Ah, vous êtes catholique. Vous êtes catholique. Ah ben, attendez. C'est pas moi. Hein, demandez à Jacques Buchold dans une conférence sur la Bible. C'est ce qu'il a rétorqué à un ami catholique qui était conférencier. Il dit, on sait très bien que de toute éternité, c'est ce qui nous différencie entre le catholique et le protestant. C'est une évidence pour les théologiens, je parle, pour les docteurs. Il y a une grande différence de croire que c'est Dieu qui a écrit les Écritures par l'inspiration qu'il a donnée à des hommes pour les écrire. Ils les écrivent. Non, mais il y a une grande différence, attention. Non, mais dans les conclusions, attention, hein. Dans les conclusions, une grande différence. Parce que ce qu'on en découle est tout à fait différent. Parce qu'en fait, l'homme cherche toujours une légitimité à son action. Parce que si c'est pas légitime, ça veut dire qu'il se fait couper la tête, il y a un problème avec les autres, etc. Donc il cherche à justifier ce qu'il fait. Légitimité. Donc l'homme cherche toujours à légitimer. Donc la légitimité, c'est, un, les protestants croient, la réforme, hein, que c'est Dieu qui a inspiré des hommes pour écrire. Alors là, j'étaye pas ça, vous avez Pierre qui explique ça, long, en large, en travers, l'apôtre Pierre qui explique très très bien que toute écriture est inspirée, etc. Bon, ben, fondement théologique absolument indiscutable, mais les catholiques croient à l'inverse. Et dur comme fer, hein, que c'est les hommes qui ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Il n'y a peut-être pas grand-chose comme différence. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont toujours inspirés par Dieu. Si le Vatican décide d'un dogme, il est toujours inspiré par Dieu parce qu'il a le Saint-Esprit. Et donc, l'écriture continue. La différence. C'est-à-dire que l'écriture s'est pas arrêtée. Parce que les protestants croient, et à juste titre, que nous sommes sur le fondement des apôtres. Hein, l'église est sur le fondement des apôtres. Et les apôtres, pas les apôtres qui font des églises aujourd'hui au Zimbabwe, mais les apôtres qui ont fondé l'église de Jésus-Christ parce qu'ils les ont vus. Et c'est pour ça, Paul insiste tellement en tant qu'apôtre d'avoir vu Jésus. Parce que les apôtres, les autres apôtres qui ont touché Jésus, qui étaient avec Jésus, à part Thomas qui a été enlevé, qui est parti, eh bien ils ont vu. Donc ils ont décrit des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont touchées. Ils ont touché Jésus. Et Paul ne l'a pas fait. Mais il se défend justement parce qu'il est attaqué fortement par les apôtres comme Pierre et tout ça au début. Disons, il l'a vu parce que Jésus l'est apparu. C'est pour ça qu'il est apparu au chemin de Damas et il a rencontré Jésus vivant. Il a eu un contact et il a pu parler de la résurrection de Jésus. C'est tellement, vous voyez, ça a l'air de rien, mais c'est très important pour légitimer le fondement des apôtres qui ont écrit la parole de Dieu. Et quand elle a été écrite dans Apocalypse, il est écrit que, qu'est-ce qui est marqué dans le dernière parole de l'Apocalypse? Pardon? Voilà. Dernier verset. Ça clôt l'inspiration que Dieu donne aux hommes. Et derrière, c'est bien, c'est des exhortations, des choses comme ça, mais ça n'a pas valeur de parole de Dieu. Ça n'a pas valeur d'autorité de la parole. Et tout ce qui concerne Marie, c'est venu après. Hein. Marie, mère de Dieu, tout ça, dans les conciles. Hein. Mais pour eux, les conciles et tous leurs encycliques ont valeur de parole de Dieu et le peuple de Dieu doit suivre. Sinon il est dans le péché, hein, parce qu'après il y a tous les péchés, il faut expier les péchés et tout ça, enfin tout le système catholique. Bon, j'ai fait une digression pour dire que les évangiles en eux-mêmes auraient suffi. Les épîtres sont pour défendre la foi et Romains, l'épître aux Romains est un monument qui fonde la foi et qui explique pourquoi cette foi elle doit être comme ça, etc. Donc c'est pas négligeable d'avoir les épîtres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et l'autre royaume. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il est gouverné par qui, le royaume des ténèbres? Par Sarkozy? Non, mais vous savez, les chrétiens prennent une position politique. Par Satan. Notre ennemi, c'est Satan. C'est pas les hommes. Il faut bien savoir que notre ennemi est spirituel. Jésus, qui est la vérité, nous a enseigné qu'il n'y a que deux maîtres absolus. Jésus et Satan. Donc Satan, qui est l'être le plus intelligent que Dieu a créé, il a donné la louange, il lui a donné un tas de choses, et il n'est pas retiré, hein, son pouvoir. Satan veut exercer ce contrôle jusqu'à ce qu'un jour il soit lié dans l'histoire et pourra un jour ne plus le faire. Mais actuellement, il va chercher à le faire. Et quelle est la première chose qu'il a en tête? Imaginez un rebelle, imaginez un adversaire, imaginez quelqu'un qui est déterminé contre vous. Qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire? Est-ce qu'il va s'amuser à aller à la plage? Est-ce qu'il va je sais pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous attaquer. Si vous avez un adversaire, il va vous attaquer. OK? Et l'adversaire de Dieu, c'est Satan. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer Dieu. Alors qu'est-ce qu'il attaque en premier? Sa parole. Parce que Dieu, bon, on le voit pas, hein, on peut le sentir et tout ça, mais sa parole, elle a été donnée par Dieu. Donc il va attaquer sa parole. Donc Satan va commencer à tordre les Écritures. Et il commence dans Genèse. Il est écrit, ne crois pas qu'il est... Non, Dieu n'a pas voulu dire ça. Vous voyez, il interprète. Hein, il interprète. Il commence à mettre dans votre tête une interprétation qui fait que vous doutez. Et donc, vous n'avez plus la foi. Hein, donc, il veut diminuer la foi. D'accord? Dans le Nouveau Testament, quand il arrive là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer les évangiles. Il va attaquer la parole de Jésus. Okay? Et les épîtres sont là pour défendre la foi. Okay? Pour remettre l'interprétation au bon niveau de compréhension telle que Dieu veut que nous la comprenions. Alors, pour ça, les épîtres sont importants. Et c'est pour ça que, moi-même, au départ, quand je suis devenu pasteur, j'avais pas remarqué que dans les épîtres, donc tous ceux qui ont écrit des épîtres, Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude, etc., tous, ils ont défendu la foi par rapport à cette corruption de la foi, qu'on appelle le gnosticisme. Le gnosticisme, à l'époque c'était le proto-gnosticisme, c'est-à-dire un syncrétisme religieux de toutes les religions qui sont mélangées et qui ont attaqué la foi. C'est-à-dire qu'ils ont introduit, infiltré à l'époque des apôtres, des conceptions erronées de l'enseignement de l'écriture. Et aujourd'hui, nous sommes toujours là. Sauf que ça s'appelle plus gnosticisme, ça s'appelle le Nouvel Âge. Et le Nouvel Âge, maintenant, est beaucoup plus fort que le gnosticisme du premier siècle, puisqu'il s'infiltre dans tout. Dans l'art, dans la musique, dans le film, dans tout. Donc c'est important de défendre la foi, de connaître les endroits où l'ennemi attaque. Vous savez, si je vous disais ce soir, enfin vous recevez un mot de votre boîte aux lettres, et qui vous dit, ce soir, je vais voler votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir à la plage Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez? Ah, il y en a qui appellent Arnaud. Et bon réflexe. Voilà. Veuillez et priez. Donc vous allez être sur vos gardes. Allô? En plus, il dit, je viendrai à minuit. C'est encore plus précis. Donc voyez, plus vous avez des informations sur l'ennemi, plus vous êtes sur vos gardes. Et plus vous avez des chances de débusquer. Alors ensuite, après, comme vous avez une grande maison, la maison fait 2000 mètres carrés, oh là, par où il va rentrer? Pardon? Un château, ouais. Admettons que vous êtes châtelain. Comment vous allez faire? Oh là là, il y a les souterrains, il y a les machins, il y a les herses et tout. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça l'ennemi, hein? Attention, hein? On appelle les amis. Ah! Tous les amis! Oui, mais si ils sont attaqués de leur côté, ils peuvent pas venir non plus. Voilà. Voyez, on est dans une guerre spirituelle. On est dans un combat. Bien sûr, c'est le combat de Dieu, mais c'est aussi notre vigilance. Et notre vigilance, c'est basé sur la défense de la foi. Il faut que nous sachions par où notre foi va être attaquée. Si vous êtes astucieux, si vous avez du discernement, si vous avez un tas de choses et que vous avez une inspiration et vous savez qu'il va rentrer par la petite porte du côté est qui est dans le fond de votre cave, et bien vous avez beaucoup de chance parce que vous allez pas vous stresser en disant je suis là mais il peut partir ailleurs. Vous allez vous mettre derrière, attendre une grosse massue et paf, puis il a sommé. C'est super ça. C'est cartoon, hein. C'est super ça. Ben, c'est comme ça qu'il faut faire avec l'ennemi. Il faut apprendre à discerner, il faut apprendre à veiller et savoir où il va taper. Hein? Et c'est ça les épîtres, entre autres. C'est ça la doctrine de la foi dont parle Jésus. Et c'est ça le rôle des docteurs. Le rôle des docteurs, c'est ça. C'est d'équiper l'Église pour que... Voyez-vous, au temps de Néhémie, il avait un travail à faire. Il fallait qu'il reconstruise la muraille. Mais dès qu'il est arrivé à Jérusalem, tout de suite, il y a les ennemis qui se sont levés. Les jalousies, vous savez, ça arrive tout le temps. Et surtout quand c'est contre l'œuvre de Dieu. Satan voulait pas que la muraille soit reconstruite. Donc il utilisait Sambala, le gouverneur de l'époque, qui était installé par le même roi qui était envoyé, enfin, qui a envoyé Jérémie. Jérémie ou Néhémie. Et donc, il commence à avoir des problèmes. Il commence à chercher subtilement à le détourner de son œuvre, qui est de construire la muraille. Et Néhémie ne se démonte pas, parce qu'il connaît la stratégie de l'ennemi. Et il il réunit ses leaders et dit, vous en faites pas, c'est une manœuvre de l'ennemi, on va pas se laisser avoir, et il donne des directives, et il avance, et dit maintenant, simplement dans la journée, vous allez prendre la truelle d'une main, et l'épée de l'autre, et s'il vient vous attaquer. Et vous, la sagesse, c'est de pas abandonner son travail. Mais nous, très souvent, quand on est, et parfois qu'on est trop attaqué, on peut plus continuer à servir Dieu. Mais ce qu'il faut en temps normal, c'est avoir les deux. C'est être équipé pour le combat, Éphésiens 6, et continuer à... Disons, il faut être armé hein, pour le combat, et puis continuer à être sur la défense, et œuvrer pour l'évangile, et être sur la défense. Et c'est ça le principe aussi de ces épées. Et le docteur doit être capable de faire ça. Alors, le ministère de docteur, dans Jean chapitre 7, verset 16, en tant que docteur de la loi, le Seigneur fit cette déclaration importante. Il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Discerner si une parole vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu, eh bien regardez les fruits de la personne qui les proclame, s'il cherche sa propre gloire ou si elle cherche la gloire de Dieu. Jésus cherchait la gloire de son Père. Il ne faisait pas des miracles à tout bout de champ. Il faisait des miracles quand le Père lui montrait de faire des miracles. Voyez-vous, il était obéissant en toutes choses. Parce que il cherchait pas, lui, à se mettre en avant. Hein. Et c'est souvent le problème des personnes charismatiques. Hein. On parlait avec Michel ce matin dans la voiture. Après, les personnes charismatiques, c'est très difficile à transmettre une œuvre parce qu'il n'y a pas forcément le même charisme, peu importe, mais c'est pas facile. Mais encore pire, si quelqu'un prend la gloire pour lui-même en partie, hein, et ensuite après, eh bien, l'utilise à dessein pour se faire lui-même hein, porter par la gloire. C'est un dessein, c'est une tendance naturelle de la chair. Mais Jésus a pu résister. Jésus, dès qu'il a été mis en contact avec Satan, rappelez-vous, dans le désert, Satan lui a proposé les trois tentations. Et une des tentations, après le miracle des pierres, c'était de dire, jette-toi du haut du temple. Et pourquoi du haut du temple? Pourquoi il a dit du haut du temple, Satan? Pourquoi il l'a emmené au haut du temple? Ben voilà. C'est l'endroit où il y avait le plus de gens. C'était rempli de gens. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme maintenant, hein. Le temple était complet, il n'y avait pas juste un mur des lamentations. Et tous les gens venaient au temple. Tous faisaient au temple. Et là, c'était rempli de monde. Et en plus du monde qui attendait le Seigneur, qui attendait le Messie, enfin, dans une attente, vous voyez. Vous imaginez Jésus qui descend, qui saute, et qui arrive en bas, comme Zorro, ou je sais pas comme qui, Spider-Man, enfin, hein. Je veux dire, il aurait été accueilli comme le Messie. Alors, vous voyez, Satan l'a tenté avec ça. Jésus, il a refusé. Non pas parce qu'il pouvait pas. Alors, vous croyez que Jésus aurait pu le faire? Il serait pas mort. Donc, vous voyez, c'est son intention. Il a vu l'intention qu'il y a derrière les paroles de Satan. Il a résisté à l'intention que Satan voulait donner à ses paroles. Parce qu'en fait, il voulait que Jésus se glorifie lui-même. Or, Jésus est venu pour glorifier le Père. Et il est venu comme serviteur. Il est venu pour servir le Père et pas servir lui-même. Mais nous, qu'on le veuille ou pas, notre nature fait qu'à un moment donné, ah oui, quand même, hein, c'est moi. Hein. Alors, certains chrétiens, à cause de ça, ils veulent pas qu'on les remercie, ils veulent pas qu'on les félicite et tout ça. Ça aussi, c'est un travers. Et non. Pourquoi? Parce que la Bible dit, soyez reconnaissants. Le problème, c'est qu'on veut toujours se protéger par des choses extérieures. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas ça. La vraie humilité, c'est que on doit être reconnaissant. Claire, c'est super ce que tu as fait, c'est bien, je te remercie et tout ça, sans tomber dans l'orgueil, mais être reconnaissant parce que c'est comme ça que ça fonctionne, voyez-vous. Donc, un chrétien vraiment dans l'humilité, il reçoit la reconnaissance, il donne la reconnaissance, mais en même temps, il se glorifie pas dans ce qu'il fait ou dans ses dons, voyez-vous. Et cet équilibre seul, on l'a en Jésus. Donc la relation avec Jésus nous donne cette capacité parce que lui a eu la capacité de résister à l'ennemi. Amen. Et ça, c'est un point très très important. Donc Jésus dit que lui, il n'est pas venu chercher sa propre gloire, mais la gloire de celui qui l'a envoyé. De la même manière que Jésus reconnaît que sa doctrine n'est pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Ainsi, aucun docteur des Écritures ne doit inventer ou créer sa propre doctrine, mais plutôt expliquer fidèlement les mystères du royaume de Dieu. Alors mystère, là, ça y est, j'ai prononcé un mot barbare, ce qu'il n'y a que Paul qui l'utilise, qui connaissait le vocabulaire grec, et le mystère est utilisé dans les religions grecques. Pierre l'utilise pas et tout ça. Mais le mystère, ça veut dire quelque chose qui a de secret, qui est révélé. La différence entre les religions à mystère, les religions païennes, ce sont des mystères qui révèlent à des initiés. Je vais dire, par exemple, mon ami, mais tiens, tu viens, je vais dire quelque chose à l'oreille, ta voisine ne le sait pas, tu le sais. Vous voyez, ça joue sur l'orgueil. Je te dis quelque chose qui est une révélation. C'est pas ça le mystère dont Paul parle. Le mystère dont Paul parle, c'est pas un secret que je vais dire à l'oreille d'Hélène pour pas qu'elle le dise à Philippe et qu'elle aura une connaissance supérieure, donc elle peut le dominer, etc. Vous voyez, c'est ça l'idée du mystère du monde, hein, et c'est comme ça que ça fonctionne. Le mystère de l'évangile, c'est simplement un secret qui a été dit dans le passé, c'est dans l'histoire, dans le passé. Tous les prophètes ont parlé de la venue du Messie, c'était un mystère pour eux, ils ne savaient pas. En plus, ils l'ont même pas reconnu, puisque c'était un serviteur souffrant, et pas un serviteur glorieux, c'est celui qu'on attend maintenant, c'est le serviteur glorieux. Eh bien, ce mystère, ce secret a été dit par les prophètes, et il s'est accompli dans l'histoire en Jésus. Et maintenant, c'est un secret pour personne. Ce mystère était révélé. Ce mystère est venu de ce qui était annoncé arrive réellement dans l'histoire. Et Jésus l'incarne, ce mystère, la parole. Et vous, donc nous sommes dans des mystères qui sont révélés parce que nous savons, nous connaissons Jésus et nous savons qui il est parce que nous l'avons rencontré, nous savons qu'il est le Messie, qu'il est celui qui nous apporte le salut, qui nous a donné le salut. Amen. Donc le docteur doit enseigner les mystères du royaume, c'est-à-dire les fondements de la vie chrétienne. Et là, je vous renvoie à Matthieu 13, 56 qu'on a lu. Jésus dit, après avoir donné tous les enseignements sur le royaume de Dieu, enfin tous les enseignements, au travers des paraboles, il dit, tout scribe instruit des choses du royaume de Dieu, donc des mystères du royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Ou alors disciple du royaume, hein, instruit des mystères du royaume. Quelle est la suite? Tire de son trésor. Ça veut dire qu'il a trouvé un trésor, hein, le trésor du champ, enfin toutes les paraboles qui précèdent. Tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Alors, un scribe, donc un docteur, instruit du royaume de Dieu. Tire de son trésor. C'est quoi le trésor qu'il a trouvé? Il connaissait la loi. Il connaissait tout ça. Le scribe, il connaissait tout ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve ça. Il trouve l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, il est incarné par qui? Par Jésus. Il trouve Jésus. D'accord? Donc le trésor, c'est Jésus. Ça veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas de trésor, mais il a un plus grand trésor. Il avait des petits trésors, il avait des perles, comme le disait Hélène si bien, et il avait déjà des perles. Mais là, il a trouvé une perle de grand prix. Un prix inestimable. Tout ce qu'il a vendu, c'était rien. Il a trouvé ça dans le champ, je sais pas où il l'a trouvé, la perle, mais ça lui coûte rien. Mais d'un coup, il devient un milliardaire infini. Voyez-vous, c'est parce qu'il a trouvé l'évangile, parce qu'il a trouvé Jésus. Donc, de son trésor, donc un scribe instruit du royaume est un scribe qui est, qui a ce trésor et qui tire dans ce trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Choses anciennes et des choses nouvelles. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Moi, à l'âge de 20 ans, je connaissais pas l'Ancien Testament, bon, j'étais catholique, et ma mère, tout le monde disait, non, l'Ancien Testament, faut pas le lire. D'ailleurs, aujourd'hui encore, quand on fait des rencontres catholiques protestants, on a toujours ce débat, non, l'Ancien Testament, c'est trop compliqué, donc les prêtres, ils choisissent, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses compliquées dans l'Ancien Testament, mais sous prétexte de faciliter les choses au peuple, on dit, non, l'Ancien Testament, on le lit pas. Bon, donc je connaissais pas l'Ancien Testament, je connaissais que le Nouveau Testament. Mais le scribe instruit du royaume, il tire des choses anciennes. Pourquoi anciennes? Parce qu'elles sont si vraies que c'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'elles sont pas vraies. Simplement, elles sont plus dures à comprendre parce que elles annoncent le Messie. Elle n'est pas réalisée, accomplie. Ici, c'est facile à lire parce que Jésus, il a accompli tout. Donc, on lit directement dans sa vie ce qu'il a accompli. Mais il tire des choses anciennes et des choses nouvelles. Allô? Le docteur doit être capable de tirer des choses nouvelles, c'est-à-dire d'actualiser toute la connaissance qui est écrite dans la parole aujourd'hui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on doit faire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on doit veiller? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on doit agir? Comment est-ce qu'aujourd'hui on doit marcher avec le Seigneur et tout ça? C'est cette actualisation de l'écriture qu'il doit être capable de faire. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de ce que toi tu établis les ministères. Te remercions pour ces ministères dans l'Église. Te prions de les bénir, de les fortifier, afin qu'ils puissent, Seigneur, être à la place que tu veux et que l'ennemi soit vaincu dans sa stratégie de dévier ces ministères de leur objectif, de leur appel. Seigneur, nous te prions afin que ton peuple soit édifié sur ta parole, afin que ton peuple, Seigneur, soit instruit pour veiller, prier pour, Seigneur, ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous te louons pour cela et nous te prions pour nous-mêmes, pour chacun de nous, que nous puissions ouvrir les yeux pour discerner, Seigneur, les pièges de l'ennemi et pouvoir, Seigneur, ne pas y pénétrer, Seigneur, et rester pur dans la doctrine, non pas pour la pureté, mais, Seigneur, pour que tu puisses agir et pour que nous soyons aptes à l'œuvre du service, que nous soyons toujours prêts à témoigner de toi, à témoigner de ta grâce, de ton amour. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus.